Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
L'apôtre saint Paul conçoit la vie chrétienne comme un combat pour lequel nous devons nous équiper des armes que Dieu met à notre disposition. Il nous dit « revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. » Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11-13, c'est dans votre livre. Et bonjour Thomas Bellel.
Bonjour.
Ce livre s'intitule « Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser ». C'est un extrait donc page 74 où vous reprenez encore l'apôtre saint Paul. On perçoit à la lecture de l'ouvrage, Thomas Bellel, que cette figure de l'apôtre Paul vous parle, vous aussi. Et c'est une grande référence aussi pour vous, évangélisateur, missionnaire, baptisé, prophète et roi.
Absolument.
Ouais. Alors, pour partir en mission, il faut s'armer. Très bien décrit aussi par l'apôtre Paul. Alors, on se prépare comment aujourd'hui pour vivre une mission d'évangélisation, une mission directe d'évangélisation de rue? Quelles sont les armes concrètement?
En fait, je pense que le combat est d'abord spirituel. Donc, les armes sont d'abord spirituelles aussi. Comme je disais, encore une fois, tout découle du fait de, on vient pour répandre l'amour de Dieu, donc faut essayer de s'en remplir le plus possible. Et donc c'est d'abord la prière. Moi, je pense, c'est vraiment la prière. Mais encore une fois, comme dans la vie chrétienne, c'est se mettre en relation, être connecté à Dieu pour pouvoir l'écouter, etc. Parce que même, si vous voulez, mission d'évangélisation, on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas quels sont leurs besoins, quelles sont leurs situations, etc. Donc, si vous voulez, c'est Dieu qui peut nous aider à trouver les mots, trouver les paroles, trouver les gestes, etc., qui peut toucher leur cœur. Donc, peut-être sur la notion de combat spirituel, on s'en rend rapidement compte quand on fait de l'évangélisation de rue, mais même parfois aussi quand on, pour les personnes qui organisent des événements pour Dieu, des choses comme ça, en fait, on sent que parfois il y a du combat. Quand c'est des choses où il y a un enjeu spirituel très fort, comme par exemple la question de la vie éternelle, ben forcément, il y a Satan, il y a le démon qui vient nous titiller. Et donc là, il ne faut pas céder à deux excès. Il y a un excès de la vie chrétienne qui est de dire Satan n'existe pas, et ça c'est faux, il faut vraiment rejeter ça. Évidemment que Satan existe, ça il faut vraiment en avoir conscience. Après, il faut se dire, Dieu est infiniment plus puissant que lui. Donc un autre excès, ce serait de vivre paralysé par la peur de Satan. Donc voilà, il faut le mettre à sa juste place, on va dire. Et Dieu est infiniment plus puissant que Satan. Et donc il faut se mettre sous la protection de Dieu, vivre la prière pour nous donner la force, pour nous donner les armes, pour être rempli de la présence de Dieu, des intuitions de l'Esprit Saint, pour pouvoir y aller. Et donc moi, j'ai des exemples très concrets, effectivement, de combats spirituels, de gens que j'ai eu autour de moi, des pasteurs, des prêtres qui organisaient telle ou telle mission, et puis qui se trouvent à un moment donné, parfois c'est très bête, mais des soucis techniques, des choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas, telle personne qui devait les aider, qui ne pouvait plus. Et donc, ça peut passer par des choses qui sont intérieures, si vous voulez, ou des sollicitations extérieures. Parfois, ça peut être ça. Avant une mission d'évangélisation, je dis parfois ça un peu avec humour, mais vous allez avoir à ce moment-là précis des amis que vous connaissiez pas, enfin que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vont proposer de boire un verre et tout ça. Et donc, parfois, des choses qui sont des bonnes choses, mais
on sent que c'est l'expérience qui part.
Il faudra avoir ce discernement-là, de se dire d'où ça vient et tout ça. Et donc, tout ça, ça nous fait bien comprendre que le combat, il est spirituel, et la première arme spirituelle, c'est vraiment la prière. C'est la vie de Dieu même qui nous est donnée pour couler sur toutes les personnes qu'on va rencontrer.
Et le Saint-Esprit, vous en parlez aussi, hein, dans ses armes aussi. Ses armes, c'est le premier missionnaire, au fond, le Saint-Esprit.
Hein.
Vous écrivez, page 83, dans la mission, le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide qui nous est offerte, vous écrivez, il est le premier missionnaire, c'est lui qui évangélise à travers nous. Si l'Esprit-Saint est absent, il n'y a pas d'annonce de l'Évangile.
mais on ne se rend pas compte encore dans nos vies à quel point...
Il y a un manque. L'Esprit Saint n'est pas présent dans le moment de la mission.
Ouais, absolument. Et on le voit très clairement. On prend l'expérience de la Pentecôte. Voilà, il y a le meilleur des stages missionnaires qui est fait par les apôtres, etc., qui sont formés par le plus grand des maîtres pendant 3 ans. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'être remplis de l'Esprit Saint pour y aller. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui est missionnaire. C'est l'Esprit Saint qui est envoyé déjà en mission par le Père et le Fils. Et donc, c'est lui qui est cette impulsion qui va nous être donnée vers les autres, qui va nous donner les mots, les paroles, la prière et tout ça, les charismes parfois aussi, des dons spirituels, des paroles de... Ça peut arriver, hein, voilà, des paroles de prophétie, des dons de guérison. C'est des choses qui existent aussi. Voilà, ça doit être discerné, mais en tout cas, ça existe. Tout ça, ce sont des armes qui nous sont données par le Saint-Esprit. Et donc, vraiment, le Saint-Esprit est extraordinaire. Il faut lui donner toute la place dans notre vie, le laisser se déployer. Parfois, on a l'impression que c'est juste une sorte de force, quelque chose d'un peu vague, mais c'est aussi, il est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. On peut avoir une relation avec lui, on peut l'écouter, on peut prendre du temps à le prier, lui laisser développer toute sa place en nous. On est déjà rempli par le Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé, vous avez déjà le Saint-Esprit qui vit en vous. Donc, il est comme en cage, si vous voulez, dans notre bide. Il faut le laisser se déployer, prendre toute la place. Il attend que ça. Mais c'est un gentleman.
Donc, au fond, il faut le libérer.
Il faut le libérer. Il faut libérer le Saint-Esprit.
Alors, pourquoi ce Saint-Esprit est souvent un peu, je dirais, en cage?
Moi, je dirais,
pourquoi on le maintient en cage?
C'est parce que je pense...
Quelles sont nos peurs, nos appréhensions?
Ouais, c'est... Alors déjà, il y a une chose, c'est que lui, de son côté, nous respecte infiniment. Donc c'est aussi son fonctionnement par rapport à nous, où il va souvent avoir beaucoup de douceur. C'est comme dans l'épisode du prophète Élie qui recherche Dieu dans le fracas, etc. Souvent, c'est dans le murmure que le Saint-Esprit va nous parler. Et donc, il y a aussi le fait que dans notre société, où on court, il y a beaucoup de bruit, etc., on prend souvent pas suffisamment de temps pour rentrer dans notre intériorité et écouter le murmure du Saint-Esprit en nous. Après, oui, il peut y avoir des choses spirituelles qui peuvent faire obstacle. Le péché, effectivement, peut faire obstacle à l'action du Saint-Esprit en nous. Parfois, on n'est pas suffisamment, justement, conscient. On n'en parle pas assez du Saint-Esprit, de qui il est, de ce qu'il peut faire. Donc, parfois, simplement, on n'est pas au courant, en fait. On n'est pas suffisamment au courant de qui il est et de ce qu'il fait. Et voilà, je pense que c'est quelque chose dont il faut pouvoir reprendre conscience. Mais je pense qu'on est dans un temps où de plus en plus on se rend compte de plus en plus. Avec le Concile Vatican II, le renouveau charismatique, beaucoup de choses qui nous font redécouvrir quelque chose qui finalement a toujours existé dans l'Église. Mais c'est voilà, il est Seigneur et il donne la vie. C'est ce que dit le Credo. Donc voilà, paisite à lui laisser toute la place.
Alors, page 105 de votre livre, paru aux éditions des Béatitudes. Donc, si on veut se le procurer, ce livre est un support pour peut-être oser devenir ce missionnaire, cet évangélisateur. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Planifier la durée de la bataille, parce qu'on parle bien donc de mission, mais vous parlez bien aussi dans cet ouvrage, vous relevez bien que la mission est un vrai champ de bataille important, mais la durée du combat l'est aussi. Il ne faudrait pas que les combattants viennent à s'épuiser. Alors, quelle est la bonne durée? Ça, c'est aussi important. Hein. Vous questionnez pour une mission de rue et au fond, pour toute mission. Il faut savoir aussi s'arrêter quand il faut s'arrêter. Il faut avoir cette sagesse aussi, cette prudence de discerner s'il est bon ou non de faire telle ou telle mission. Avoir cette prudence, bien se connaître aussi pour ne pas non plus arriver à un épuisement. Un épuisement missionnaire ne serait pas bon en soi.
Donc, effectivement, déjà, première chose, c'est que ce que je dis, c'est vraiment indicatif. Il ne faut vraiment pas se dire, voilà, c'est pour faire réfléchir sur certains points. Mais je voudrais surtout pas qu'on prenne mon livre en disant il faut appliquer chaque point au pied de la lettre, parce que c'est contraire totalement à l'esprit qui est de se dire que c'est d'abord Dieu qui missionnait à travers nous, et c'est d'abord en l'écoutant. Donc, c'est justement pas d'abord une stratégie humaine, mais effectivement, de se dire, être conscient aussi de qui on est, de ce qu'on peut donner, de nos ressources. Et voilà, de cette fameuse vertu de prudence, de se dire, c'est pas incompatible d'à la fois d'être rempli de confiance, de foi, ou même si on n'a pas assez de foi, on n'a jamais assez de foi, donc on peut demander à Dieu, viens au secours de mon manque de foi. Mais voilà, aussi d'être conscient de qui on est, de nos faiblesses, de nos limites, du fait que, voilà, souvent c'est quelque chose qui est assez fatigant, physiquement, spirituellement, de se livrer, l'évangélisation de rue, quand on en revient, on est à la fois plein de joie, et puis en même temps, on voit qu'il y a quelque chose en nous, quand même, qui a été pompé. Et d'avoir aussi, ce discernement de pouvoir aussi donner ce qu'on peut donner. C'est ça, Dieu n'attend rien de plus que ce qu'on est capable de donner. Après, il fera des merveilles à travers ça. Mais... Voilà, donc essayer d'imaginer le
donc
temps qu'on peut
donner. Donc il y a la joie du don aussi et du temps qui est donné. Et puis du don et de la gratuité de
absolument.
La mission.
Ouais, ouais. C'est vrai que la gratuité est essentielle parce que les fruits, il y a des fruits, ça je peux vous dire, il y a des fruits à l'évangélisation de rue, sinon moi j'en ferai pas. Mais en même temps, on peut jamais complètement contrôler parfaitement ce qui se passe dans le cœur des gens. Parfois, on sème, mais on n'a pas forcément
les fruits immédiatement.
Les fruits immédiatement et tout ça. Donc, on est aussi des serviteurs inutiles. Voilà, on fait un peu ce qu'on a à faire. On laisse passer le Saint-Esprit, mais on n'est pas dans la maîtrise totale. On est même, en fait, on maîtrise.
Mais vous me rassurez.
On maîtrise rien.
Donc, il
voilà.
n'y a pas un abus de pouvoir.
Non, mais
il
n'y
a pas
sûr.
De manipulation.
Non, bien sûr. Il faut.
Et vous parlez aussi de serviteur. Ça aussi.
Il faut être dans une attitude de serviteur, d'humilité, de ne pas vouloir contrôler
les
cœurs.
Ne pas vouloir être plus grand que le maître. Ça peut arriver parfois. Hein.
Oui, et c'est d'autant plus dur que, en fait, justement, ce qui peut être compliqué, c'est d'une certaine manière, plus Dieu va agir à travers nous, plus on va se sentir l'instrument du Saint-Esprit et tout ça, plus l'orgueil spirituel peut monter très vite. Donc il faut faire très très attention
à ça.
C'est
la grande tentation. Hein.
C'est une grande tentation qu'on peut avoir aussi. Ben, moi, je le vois dans mon propre cœur. C'est une tentation qui peut exister dans l'Église aujourd'hui, dans beaucoup de choses qui peuvent se passer, dans des communautés nouvelles qui peuvent avoir beaucoup de fruits. Mais puis en même temps, voilà, plus on a des fruits, plus voilà, l'orgueil peut monter et tout ça. Et donc c'est d'autant plus important, plus on a envie de faire des choses pour Dieu, plus on a envie d'être instrument de Dieu, et plus on voit l'action de Dieu dans notre vie à travers nous, vraiment d'être serviteur inutile, humilité, de se mettre à genoux au pied de la croix. Et il y avait quelqu'un qui me donnait une formule que je trouvais géniale, on est des ânes qui portons le Seigneur. Donc, on est capable de porter le Seigneur, mais il faut qu'on ait en tête qu'on est des ânes.
Et c'est ainsi que nous terminons cette rencontre du jour. Merci Thomas Bellel, auteur de ce livre paru aux éditions des Béatitudes. Je vous donne rendez-vous demain et ça sera donc la dernière mission sur les ondes de nos radios chrétiennes. Et merci.